Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu Internet, gadgets et c'est quoi le troisième ? Technologie, c'est ça ? C'est peut-être de ça qu'il faut parler aujourd'hui. On va d'ailleurs vous parler spécifiquement de technologie avec la conférence Google où il y a eu de nombreuses annonces, pas toutes intéressantes, mais certaines assez intéressantes quand même. On va vous détailler tout ça. On aura aussi quelques mots sur des projets d'Apple qui commencent à se confirmer, des changements dans le domaine des réseaux sociaux, c'est un petit peu l'histoire sans fin, et plein d'autres petites choses qu'on va vous détailler pour que vous compreniez tout à la tech, comme à chaque épisode, une petite heure pour réunir toutes les informations dans la bonne humeur, c'est ce qu'on vous propose. Je suis Patrick Béja, et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir, comme tous les mois, Gaëlle, qui se joint à nous de coude. Comment ça va Gaëlle ?
Bonjour Patrick, très bien, et toi ?
Écoute, je suis en forme, je suis de retour en Finlande avec, si vous entendez des bûcherons qui littéralement sont en train de tronçonner des arbres, c'est parce qu'il y en a dehors de la fenêtre. Donc,
c'est pas chez vous.
Sur toi, ouais.
Ouais, c'est ça, oui. J'espère que ça tombera pas sur la maison. Là, je risquerai de devoir interrompre l'épisode quelques minutes.
Bon, tu verras sans toi, c'est pas grave.
Très bien. Et l'autre voix charmante que vous avez entendue, c'est celle de Julien Cadeau de Numérama. Comment ça va, Julien ?
Eh bien, ça va très bien, très très bien.
Tu es avec nous parce que, évidemment, tu es une personne compétente et sympathique et qu'on a toujours plaisir à recevoir dans l'émission. Et aussi, en plus de ça, double bonus, donc tu vaux beaucoup plus que Gaël et moi dans cette émission aujourd'hui. Tu as eu le Pixel 4 entre les mains, donc on va pouvoir en parler dans quelques minutes.
Eh oui, je l'ai même entre les mains actuellement.
Entre les mains actuellement, c'est fou, on va pouvoir te poser des questions en direct. Avant de se lancer dans l'émission elle-même, il faut tout de même que je remercie ceux qui participent à financer l'émission avec Patreon, notamment David Capitaine, Hugo Talandier, Cyril Leferrer, Erwan Ménet, Sébastien Cabane, Fabien Plateau, Léandre Mancel, Milan Morales, Fabien Béclin et Manuel Villa. Ceux-là et beaucoup d'autres contribuent à l'émission et je remercie tout particulièrement, en plus des gens qui contribuent au Patreon, sur patreon.com/rdvtech, les gens qui sont venus au Paris Podcast Festival ce week-end, puisque j'étais à Paris, et on a passé un moment super sympa ensemble. Il y avait des Patreons et des non-Patreons. Et on a fait un petit podcast particulier, spécial, avec des invités dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans l'émission, puisque le podcast qu'on a enregistré, qui est un petit peu spécial, on a parlé de qu'est-ce qu'un podcast. Et ça sera l'émission qui sera normalement, si tout va bien, le prochain épisode. Pendant que je serai en voyage aux États-Unis, la semaine prochaine, on aura cet épisode spécial qui sera dans le flux du podcast classique. Donc, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, mais pour le moment, juste un grand merci à tous ceux qui soutiennent l'émission et à tous les patriotes qui font que cette émission existe. Donc, on va parler de Google. Google qui a fait une conférence la semaine dernière que je qualifierais... Je ne sais pas, Julien, toi, tu es peut-être plus qualifié justement pour nous dire comment elle était. Moi, je l'ai trouvé un poil soporifique, mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi ?
Ouais, c'était assez mou dans l'ensemble. Après, c'était étonnant aussi comme format. Alors, je suis un habitué, j'en regarde des dizaines tous les ans et depuis maintenant une dizaine d'années. Et c'est vrai que j'avais rarement vu un constructeur prendre des thèmes et rattacher des produits à des thèmes et non pas présenter une suite de produits avec leurs caractéristiques. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais en gros, Google a commencé par parler, par exemple, écologie, volonté, de s'ouvrir à des matériaux recyclés, etc. Et directement, ils viennent spoiler leur annonce du mini, enfin du nouveau NES Mini. Ils viennent spoiler leur annonce du recyclage de certaines parties du NES Hub Max et du Google, du nouveau Google Wi-Fi. Enfin, Google NES Wi-Fi, c'est compliqué, c'est gamme. après, ils sont partis pareil sur la volonté d'apporter des nouvelles choses à la mobilité. Enfin, ils ont donné leur intention avant de présenter les produits. Et ils ont greffé les produits à l'intérieur. Donc, en gros, dès le début de la conférence, on avait tout vu. C'est-à-dire qu'il y avait une slide à 5 minutes qui présentait toute la gamme en disant, voilà, c'est ça le futur de Google.
Ouais, il y avait beaucoup de ça.
Ouais.
Et un truc qui m'a gêné aussi, à la limite, je pense qu'on peut applaudir l'intention de faire les choses de manière un petit peu différente, mais au final, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que ces conférences, on va peut-être se plaindre qu'on nous dise « Ah, mais vous parlez de spoil, machin, on s'en fout, c'est juste des présentations de produits. » Oui, mais c'est aussi, à un moment, un show et puis il faut un petit peu exciter les foules et exciter les gens qui regardent ça. Y avait aussi plusieurs séquences, au moins deux, où ils ont amené des gens sur scène avec des chaises et ils sont assis et ils ont parlé. Et ça, c'était un petit poil, je sais pas, c'était quand même assez... c'était un temps d'arrêt dans les conférences et dans la conférence et ça n'a pas fonctionné, quoi. Mais
bon. Je suis d'accord. Mais c'est très Google de faire ça. Si on se souvient des derniers... Enfin, il y a deux ans et même l'année dernière... parfois on a l'impression que leurs conférences ils les pensent comme des kermesses du village en fait, avec trois petites chaises en plastique, une toute petite scène et puis ça parle un peu, c'est assez bizarre parce qu'il y a beaucoup d'ambition derrière et beaucoup de choses qui sont dites, mais ils n'ont jamais pris ce pli de la conférence très grand spectacle, etc. Bon, après c'est peut-être leur marque de fabrique,
c'est pas faux. Je dirais que les années précédentes ça fonctionnait mieux que cette année elle était particulièrement molle, j'ai trouvé.
C'était très paquet après, hein. C'était une heure de conf, et après peut-être que tu as peut-être dit le mot, mais c'est peut-être la conférence la plus leakée de l'histoire. Bon, on dit ça tous les ans, mais cette année c'était un peu vrai. Donc à un moment, je pense que quand tu es conscient de ça, soit tu joues un peu avec, comme a pu le faire Apple parfois, soit tu fais des trucs à la Samsung avec le Fold qui avait été dévoilé, je ne sais pas si tu te souviens, avant les Galaxy S10. Dernier moment, ils avaient fait 20 minutes dessus au tout début pour sauver un peu la conférence S10 qui, pareil, était bourrée de leaks. Soit tu fais comme Google, tu fais un récap rapide de tout ce qu'il y a et puis tu espères que les prises en main et ce qui viendra après sera de toute façon plus intéressant pour la presse, les investisseurs, etc.
Bon, après, c'est vrai que ça, c'est une remarque presque... c'est très inside baseball pour les gens, en particulier les journalistes qui suivent ça en direct et qui commentent la forme plutôt que le fond. Et on le fait toujours et c'est une partie du fun de ces conférences. Mais il y a aussi le fond qui est tous les produits qui ont été présentés, dont une bonne partie a été leakée, et comme tu le disais, Julien, et qui sont quand même assez intéressants à décortiquer. Donc, le plus important, évidemment, c'est les nouveaux téléphones de Google, le Pixel 4 et le Pixel 4 XL, qui ont des fonctionnalités très spécifiques. Amélioration des caméras et de l'appareil photo avec deux objectifs, contrairement à celui de l'année dernière qui faisait déjà des excellentes photos avec un seul objectif grâce à leurs algorithmes qui amélioraient les photos. Là, ils ont deux objectifs. Un qui a un objectif téléphoto et un classique, mais donc ils n'ont pas de grand angle. Donc, c'est un choix particulier. Et surtout, il y a toute cette suite de capteurs qui s'appelle Soli, qui est une sorte de Kinect, pour ceux qui s'en souviennent, qui vont permettre de faire de la reconnaissance de visage et de la reconnaissance de mouvement de main devant l'appareil pour le contrôler sans le toucher. À noter que les capteurs sont logés en haut de l'appareil, donc il a un petit front, comme on dit en anglais, mais pas de notch, pas de petit renfoncement qui sort sur l'écran. Et donc, il n'est pas entièrement en plein écran sur le devant de l'appareil. Donc ça, c'est pour les téléphones eux-mêmes. On va en parler plus en détail, justement, dans un moment. Et puis, juste pour le dire, il y a eu tout un tas d'autres appareils dont on pourra parler ensuite, comme les Pixel Buds, donc toujours cette mode d'avoir des... Enfin, cette catégorie de produits vraiment qu'a créé les AirPods, Apple avec les AirPods. On s'en moquait au départ, et ben au final, comme tous ceux qui l'ont eu dans les mains, je le dis à chaque fois, on a été convaincus, et les autres sociétés aussi. Un Pixelbook Go, donc un Chromebook de grande qualité, plus transportable. Des nouveaux Nest, donc des enceintes intelligentes Nest Mini et un routeur Wi-Fi Nest qui est un routeur en réseau mesh. Donc, ils se connectent entre eux pour balancer le Wi-Fi sur toute la maison, ce qui est surprenant. Ça, c'est très à la mode aussi en ce moment. Moi, j'en ai un à la maison qui marche très bien, mais pas de Google, mais un autre. Mais c'est sans Wi-Fi 6, ce qui est surprenant. Mais bon, voilà, c'est un petit peu ça casse l'attractivité du produit. Mais bon. Et l'autre chose à noter, c'est que les nouveaux Pixels ne supportent pas l'initiative réalité virtuelle de Google, Daydream, et donc ils semblent être en train d'abandonner leur initiative de réalité virtuelle avec téléphone à encaisser dans un petit viseur, une petite visière plutôt, ce qui veut dire que la réalité virtuelle, bon, avec les téléphones portables, c'est plus vraiment d'actualité, mais il y en a plein d'autres versions évidemment. Avant de donner la parole à Julien, j'aimerais très rapidement me retourner vers Gaël pour lui demander s'il y a des choses qui... je vais parler de toi à la deuxième personne plutôt qu'à la troisième. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intrigué, plu dans toutes ces annonces toi, je sais que tu aimes les petits téléphones avec ton iPhone SE, mais là, tu n'as plus vraiment le choix, donc...
Effectivement, non, j'ai hâte d'avoir le retour du coup de Julien qui l'a entre les mains. Effectivement, le côté hand motion m'intrigue, savoir ouais. comment ça va fonctionner, savoir si ça fonctionne bien déjà. Ça, c'est un point qui m'intéresse plutôt pas mal. Après, il y a eu plein de choses qui ont été dites sur la caméra, sur l'appareil photo. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui fait qu'on va aller vers le Pixel 4 aujourd'hui, si c'est vraiment l'appareil photo. Et puis cette fameuse faille de sécurité sur la reconnaissance faciale aussi m'intéresse. Ouais. Je ne sais pas, du coup...
On va en parler, oui.
C'est des choses, voilà. Mais après, le Pixel, moi, j'ai eu le tout premier à l'époque où je travaillais chez Google, parce qu'à l'époque, ils l'offraient aux employés, donc c'était plutôt sympa. J'avoue que c'était déjà un bel appareil, donc hâte quand même de le voir, même si je ne l'aurais pas moi-même parce qu'il est trop gros. J'aime quand même la technologie, j'aime le savoir, et j'ai hâte de voir le retour.
Alors justement, ces produits sont relativement, on va dire, moyen haut de gamme. On est à 800-900 $, donc c'est quand même du haut de gamme. En France, ça sera un petit peu plus cher. Les deux éléments les plus importants, comme le rappelait Gaël, c'est la reconnaissance de mouvement et l'appareil photo qui a peut-être moins d'objectifs que d'autres, mais dont les connaissances et les capacités de Google logiciel permettent de quand même sortir d'excellentes photos. J'arrête le teasing. Julien, sur ces deux points spécifiquement, on va dire dans l'ensemble, quelles sont tes impressions avec l'appareil dans les mains ?
C'est vraiment les deux points importants. C'est ce qui m'a fait appeler parfois le Pixel 4 un excellent iPhone sous Android, parce qu'on arrive vraiment à matcher maintenant les caractéristiques. C'est-à-dire que je me suis habitué à Face ID depuis pas mal de temps, et c'est vrai que quand je retournais sur mon Pixel 3, devoir mettre mon doigt, etc., c'est pénible.
Tu fais partie des gens qui préfèrent Face ID ? Je sais qu'il y en a qui préfèrent les lecteurs d'empreintes.
Oui, complètement. En fait, une fois que je l'ai adopté, je ne peux plus m'en passer. Après, petit fait personnel, je fais de l'escalade, donc mes empreintes sont complètement détruites à chaque fois. Donc ça marche une fois sur cinq, le déverrouillage biométrique par le doigt. Alors qu'en revanche, ma tête, je n'ai pas tendance à la changer tous les deux jours. Donc
c'est un peu plus simple. Même l'escalade ne te l'endommage pas. Mais en plus, voilà. Le projet Soli, je ne sais plus comment il l'appelle d'ailleurs, spécialement chez Google.
Il l'appelle Face Unlock.
Donc Face Unlock, oui. Voilà. Mais il marche a priori, d'après ce que dit Google, mieux dans la rapidité de déblocage, parce que grâce à tous ces capteurs, l'appareil sait que tu es en train d'amener ta main vers lui pour le prendre, et donc il prépare les capteurs. Et donc, au moment où tu as mis ta tête devant, il est presque déjà débloqué, quoi.
Exactement, et l'effet est assez bluffant quand ça marche. Ça marche pas à tous les coups, c'est assez aléatoire, mais par exemple, parfois, on le sort d'une poche et on le met devant sa tête et on ne s'est même pas aperçu qu'il était déverrouillé. En revanche, il l'a été. Il y a eu cette petite vibration qui dit « Ok, j'ai reconnu ta tête, c'est bon ». Et en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est que Soli, dans cette configuration-là, a été éduqué pour reconnaître la main qui arrive, un mouvement, etc. Parce que c'est un radar, hein, ça marche à très faible distance, et du coup, même une main qui vient dans une poche, pour lui, c'est un mouvement, c'est un truc qu'il peut capter. Et en fait, ça va précharger le logiciel qui dit « Bon, ben, y a quelque chose qui va se passer, réveille-toi, l'utilisateur veut probablement te déverrouiller ». Et du coup, c'est vrai que ça enlève quelques microsecondes, et ces microsecondes, bah, en fait, elles font pas mal la différence. Donc oui, c'est plus rapide que sur iOS. Ou déjà, de toute façon, sur iOS, si vous avez l'habitude d'un iPhone, on doit déverrouiller en faisant un slide.
Là, ça se déverrouille tout seul. Ouais.
Exactement. On est sur l'écran d'accueil, directement après avoir pris le smartphone.
D'accord.
Et c'est une petite différence qui est permise par Soli. Et en pratique, ça marche très, très bien. Ça a été agréé dispositif biométrique de haut niveau de sécurité, donc c'est quand même un bon dispositif avec un capteur qui permet de faire un mapping 3D du visage et pas simplement des photos en 2D comme en fait quasiment tous les smartphones Android qui proposent un déverrouillage par reconnaissance faciale font ça aujourd'hui. Et c'est absolument pas sécurisé, on peut les déverrouiller avec une photo de vous. Enfin voilà, on a testé.
Là, c'est pas le cas, on est plus sécurisé. Et d'ailleurs, à propos de sécurité, comme l'évoquait Gaël là encore, il y a eu une petite, pas controverse, mais enfin une petite question qui a été posée sur le fait que Soli, le système de Google, contrairement au système d'Apple, par choix, avait décidé de ne pas nécessiter le fait que les yeux soient ouverts et donc de regarder vers le capteur. Et ça posait un problème de sécurité parce que ça voulait dire qu'on pouvait déverrouiller le téléphone en le prenant dans les mains et en le mettant devant votre visage, même si vous vouliez fermer les yeux et ne pas regarder le truc. Donc, ça pouvait déverrouiller quand même. Ils ont annoncé récemment, il y a juste un ou deux jours, qu'ils allaient mettre à jour le système pour qu'il y ait une option justement pour nécessiter le regard actif vers le capteur. Donc, ouais, tu es satisfait
de cette... c'est l'inverse d'Apple. Moi, je ne suis pas satisfait, non, parce que... En fait, je vois les deux philosophies. Et en fait, je pense que cette option pour ajouter du coup un déverrouillage avec qui demande l'attention en fait de la personne, ça va clairement ralentir le processus parce qu'il va falloir fixer le smartphone. Du coup, je vois bien la philosophie de Google qui était de se dire on va faire le truc le plus transparent possible. On va aller dans la non-friction la plus totale. Et je trouve que c'est une quête louable, hein. Mais c'est vrai qu'il faut avertir qu'on perd en sécurité et parfois à un niveau assez élevé. On a testé effectivement sur des gens qui ferment les yeux. Je me souviens qu'on avait lu des news à la sortie des premiers iPhones avec déverrouillage facial de gamins qui avaient déverrouillé les iPhones de leurs parents en les pointant vers leur visage et qui avaient acheté des trucs en microtransactions, etc. Ben là, en fait, c'est offert,
c'est
en fait,
pire,
à ce genre de pratique. C'est même pas un gamin qui arrive une fois à le faire et par hasard ou c'est un bug du logiciel. Ouais. Non, c'est juste de série, en fait. C'est
la
sécurité by design.
On comprend l'intention et le fait de fluidifier l'utilisation. Je dirais que c'est quand même mieux d'avoir l'option et on verra comment elle fonctionne. Mais oui, avoir l'option est important. D'ailleurs,
moi, j'aurais trouvé que l'inverse aurait été mieux, tu vois, que ce soit par défaut et que l'option se soit désactivée comme sur iOS où c'est possible pour des raisons, comme je l'avais écrit dans mon test, d'accessibilité. Ils pensent aux personnes malvoyantes qui ne peuvent pas regarder un iPhone, un capteur en face. Et du coup, ils se disent, on va leur laisser le choix de déverrouiller Face ID sans regarder le capteur. Je préfère ça personnellement. Ouais.
On est d'accord. Alors, l'autre aspect hyper important de ce téléphone, on n'a même pas mentionné le fait qu'il ait un écran à 90 Hz qui est donc un rafraîchissement plus fluide, ce genre de choses, parce que ce n'est pas les éléments les plus importants, mais ce qui est important, c'est la caméra. On se souvient que le Pixel 3, avec un seul objectif, réussissait à faire aussi bien, voire mieux, que la plupart des autres appareils photo, grâce, je l'ai suffisamment répété, à l'expertise logicielle et algorithmique et intelligence artificielle de Google. Là, il rajoute un deuxième appareil photo. Tu as pu l'utiliser. Qu'est-ce que tu en penses de l'appareil photo, alors ?
Déjà, physiquement, je trouve ça dommage d'avoir mis un carré comme ça, parce qu'il n'y a que deux objectifs. Vraiment, j'étais convaincu sur les leaks qu'il y aurait au moins trois objectifs dans un tel carré assez gros. Hein, qui... Là, j'ai les deux, j'ai l'iPhone 11 Pro et le Pixel 4 devant moi, ils ont à peu près la même taille, il y en a un qui a un objectif en moins. Donc, je trouve ça un peu dommage comme perte d'espace.
Et puis surtout, l'objectif, le truc quand même à noter, c'est que si on n'a pas de grand angle, ça, c'est le truc qu'on ne peut pas faire en logiciel. Donc ouais, non, le fait qu'il n'y ait pas de grand angle sur le Pixel 4, c'est un peu dommage. Le zoom, ils peuvent le faire en logiciel, même s'il est moins bon qu'un vrai zoom optique, évidemment. Mais le grand angle, ben, on ne peut pas rajouter d'un angle de photo. Bon, c'est ouais. À savoir.
Et la disposition d'Apple, dont on s'est pas mal moqué, là, les espèces de plaques à induction, finalement, ça permet d'avoir une délimitation assez nette des capteurs, et ça nous évite en réalité de mettre des traces de doigts dessus. Et c'est ce que j'ai remarqué tout de suite sur le Pixel 4, il est tout le temps dégueulasse, parce qu'il y a cette espèce de grande dalle qui vient recouvrir toute la surface, et on s'en aperçoit pas quand on met nos doigts dessus. Et en fait, il y a vraiment des traces qu'il faut enlever tout le temps. Alors, le smartphone est assez intelligent pour vous le dire. Il vous dit nettoyer l'objectif, il est peut-être impossible. Mais en fait, je l'ai depuis une semaine à peu près, depuis la conférence, et ça m'est arrivé 3-4 fois déjà. Donc je trouve que c'est assez symptomatique du placement, enfin d'un placement et d'un choix peut-être de design qui est peut-être pas excellent. Après, l'appareil photo en soi, en lui-même, il faut savoir que Google était vraiment devenu un roi là-dessus. Hein. Il savait vraiment faire des choses bluffantes. Cette année, en fait, ils ont un peu repris la même formule sans trop l'améliorer. Mais je trouve qu'ils étaient déjà tellement loin devant l'année dernière que en fait j'ai l'impression qu'ils font un peu comme Apple avec le logiciel quoi. On peut leur reprocher parfois de se dire ouais, certes, la concurrence est pas encore là, on peut garder 2-3 ans telle ou telle feature sans les avoir changées. Là on est un peu sur le même truc avec l'appareil photo, donc c'est toujours bluffant, mais il y a moins l'effet de surprise parce que c'est bluffant un peu comme l'année dernière. Alors moi je l'ai essayé dans deux configurations où pour le coup un iPhone est complètement perdu. Le premier, c'est configuration professionnelle. J'ai couvert une conférence. J'ai pris des photos. C'est des endroits où la luminosité est absolument horrible. Tu as déjà dû faire des conférences. Il y a des lumières qui sont bleues, des lumières qui sont jaunes. Il y a un triple éclairage de la scène, du public qui est dans le noir. Il y a un écran qui projette souvent des slides, etc. Et ça, un smartphone, généralement, c'est pas prendre. En fait, il fait une photo qui est complètement brouillée. Il va choisir un focus, un éclairage, etc. Le Pixel 4, j'appuie sur le bouton, il y a tout qui est propre. Et ça, j'ai vraiment halluciné. Je me suis dit, OK, ils savent faire ça et logiciellement, ils savent prendre une dizaine d'éclairages et lisser la photo pour qu'on ait l'impression que ce soit parfaitement normal, en fait. Que j'avais l'impression de voir sur l'écran du Pixel ce que je voyais en réalité. Et ça
vraiment, c'est fort dans ce genre de configuration. Et je confirme, et les auditeurs le confirmeront, j'en suis sûr aussi, généralement, les téléphones, ils ne savent pas faire. Et celui-là, il y arrive.
Ouais. Et ça, c'est en fait, je trouve qu'aujourd'hui, parce qu'on ne va pas se mentir, les smartphones les meilleurs du marché, les smartphones haut de gamme, comme tu les as appelés, ont tous des bons appareils photo. Il n'y a pas un mauvais appareil photo sur un smartphone haut de gamme aujourd'hui. Ça va être plus des goûts et ça va être plus, je pense, la capacité justement à être bon dans ses cas limites. Et c'est là où le Pixel impressionne. C'est-à-dire que, pareil, j'ai essayé un mode portrait dans ce même endroit qui était mal éclairé. C'était magnifique. J'avais essayé un mode portrait dans une rue sombre à Munich lors d'une autre conférence avec le dernier iPhone 11 Pro. Il avait du mal dans le noir. Tu vois, c'est des petites choses comme ça qui font dire que, OK, il arrive à être performant peut-être 1% de plus du temps dans des cas vraiment extrêmes et où les autres n'arrivent pas à suivre.
Même dans le cas, c'est vrai qu'on a vu que l'iPhone avait beaucoup amélioré avec cette dernière mouture l'éclairage, enfin la prise de photo dans le noir, enfin dans des conditions de faible éclairage. Mais tu confirmes que le Pixel 4 a toujours la main sur ce type de configuration, quoi.
Je pense qu'on est sur une question de goût. Moi, je préfère les photos de l'iPhone, donc ça, c'est un avis personnel de nuit, parce qu'ils arrivent à garder ce côté nuit, en fait, alors que le Pixel essaie un peu trop d'éclairer les zones, en fait. On a c'est l'impression ce qu'on avait d'avoir. C'est toujours la même chose. Les critiques sont toujours les mêmes. Maintenant, ce que sait faire le pixels, c'est vraiment avoir, je pense, un dosage de la lumière. Par exemple, quand il y a des lumières fortes dans une rue, il va savoir très bien l'atténuer pour que ça ne fasse pas des halos sur la photo. L'iPhone 11 Pro, c'est beaucoup mieux le faire que les précédents iPhones. Ça, c'est un fait, c'est indéniable. Mais Pixel 4, ça, c'est un truc qui sait faire que Google sait faire depuis le Pixel 3. Et sur le Pixel 4, c'est encore mieux. Alors, c'est une question de goût, je pense, côté photo de nuit.
Oui, non, j'allais juste te demander, dans l'ensemble, donc le téléphone, en conclusion, tu es... Ou alors si tu as d'autres choses à préciser, mais...
Ouais, il y a un truc vraiment impressionnant. Tu parlais de zoom numérique, c'est le zoom numérique justement de Google. Honnêtement, ça fait très longtemps que je n'ai pas été bluffé par une fonctionnalité comme ça.
Ouais.
Et ça, c'est... en fait, ils ont une méthode pour prendre du zoom qu'ils ont pris, qu'ils ont imaginé à partir de la stabilisation qu'ils faisaient déjà sur les Pixel 3. En réalité, quand tu vas zoomer sur une photo, quand tu vas zoomer depuis l'appareil, il va un peu plus bouger que ce que bouge ta main pour prendre plein de clichés qui sont un poil autour de la scène que tu veux prendre. Il va faire une recomposition a posteriori par le logiciel. Et en réalité, ben, le zoom qu'ils appellent 8 fois, donc on ne sait pas trop quelle est la distance focale parce que c'est souvent du bullshit marketing derrière, mais quand j'ai comparé avec un iPhone et même avec tous les autres smartphones, c'est impressionnant. Les détails que tu peux trouver sur un zoom 8 fois au Pixel 4, tu as l'impression que ça n'a pas zoomé en fait, que t'es sur une focale physique. Alors que tu es sur un traitement entièrement numérique du cliché. Et ça, j'ai rarement vu un appareil faire aussi bien. Alors ça, c'est uniquement... Enfin, c'est la double utilisation, effectivement, du télé qu'ils ont ajouté et du logiciel qui leur permet de faire des merveilles et des trucs que, ouais, vraiment qu'on voit nulle part ailleurs.
D'accord. Bon, donc, écoute, Google continue à faire des choses incroyables avec ses appareils et avec le logiciel, c'est très bien. En conclusion sur le Pixel 4.
Je me permets juste une petite
vas-y.
Justement sur les commandes gestuelles. T'en penses
ah oui, c'est vrai, j'en avais pas parlé.
Ah mais bien sûr, on les a oubliées.
Moi, je sais pourquoi on les a.
Ben, vous savez pourquoi on les a oubliées? Parce que c'est vraiment pourri. Google nous a bassiné avec un storytelling. Ça fait 5 ans qu'on cherche à miniaturiser un radar un radar de quoi? Un radar d'avion. Pour en faire un tout petit radar dans un smartphone. En réalité, je trouve que je suis impressionné par la technologie et les ingénieurs qui ont mis ça au point et je retire mon chapeau, mais l'application n'a aucun sens. C'est-à-dire que Google n'a pensé qu'à 3 mouvements, c'est-à-dire la main qui va de gauche à droite, la main qui va de droite à gauche et la main qui approche, et a mis dans son système uniquement 3 ou 4 interactions, c'est-à-dire passer le morceau suivant sur une playlist de musique, passer le morceau précédent ou arrêter le son d'une alarme. Et du coup, on se retrouve avec une technologie de pointe qui, en pratique, mais je l'ai littéralement jamais utilisée. Et quand j'ai voulu l'utiliser et croire que, en croyant que Google avait pensé à l'interaction que je voulais, ça n'était pas intégré. Typiquement, j'ai eu un appel pendant une réunion, donc mon smartphone se met à vibrer. Je fais le mouvement qui me vient naturellement pour arrêter la vibration, c'est-à-dire approcher ma main et cacher le téléphone. Et je me suis dit, tiens, ça va marcher, ils ont un capteur radar, c'est un usage hyper pertinent. Ben non, en fait, ils n'y ont pas pensé.
Et t'es sûr que c'est pas parce que... En fait, quand les interactions ont été pensées, est-ce que ça fonctionne ou... Parce que j'ai eu des retours un petit peu mitigés, on va dire, avec des gens qui disaient ça fonctionne même dans ces cas-là, une fois sur deux ou deux fois sur trois, mais pas suffisamment pour que ça soit satisfaisant, quoi.
Ouais, c'est... En fait, même dans les cas où ça a été pensé, c'est un peu décevant, en fait. C'est... Et c'est ça où on se demande, en fait, où sont passés ces 5 ans de R&D, parce qu'ils ont l'air honnêtes, hein, les chercheurs qui travaillent chez Google, c'est pas des commerciaux, en fait. C'est des gens qui t'ont dit, ouais, on a modélisé 1000, 2000 gestes de la main de 1000 à 2000 personnes qui font des gestes de la main différents pour avoir un truc complètement neutre et qui marche avec tout le monde. Mais en pratique, il fallait peut-être en modéliser 2 millions, quoi.
Est-ce que tu crois que Est-ce que tu crois du coup que c'est une technologie, un outil qui pourrait devenir utile à terme, ou est-ce que là c'est trop tôt pour le dire encore ou...
Oui, carrément. Je pense qu'il leur faudrait beaucoup d'améliorations logicielles et d'intégrations logicielles. En fait, c'est le même problème que je vois avec 3D Touch d'Apple, Force Touch, 3D Touch, enfin bref, comment ils l'ont appelé sur leurs différents appareils, qui étaient déjà mieux intégrés. Donc, on avait déjà des fonctionnalités. Mais en fait, soit les gens ne l'utilisaient pas parce qu'ils ne savaient pas que ça existait, soit les gens se disaient « mais pourquoi j'ai besoin de cette interaction ?»
Et ben là, sais qu'il y a des gens qui l'utilisent, mais effectivement, ils sont rares et forcenés, mais ils sont assez rares. Sûr. Moi, par exemple, je l'utilise quasiment jamais. Ouais.
Mais t'imagines avoir fait plusieurs générations d'iPhone avec une couche supplémentaire dans l'écran. T'imagines la complexité technologique à faire ça pour le pourcentage de personnes qui l'utilisent vraiment efficacement au quotidien. Je trouve qu'on va être pareil avec Soli. Et c'est dommage parce que Google avait vraiment une technologie et ils auraient dû mettre le paquet dessus, en fait. Ils auraient dû se dire, ensuite, on propose une expérience totale.
Peut-être que ça viendra dans les modèles à venir. On va prendre tes conclusions sur l'appareil, et puis juste si vous avez des choses à ajouter sur les autres produits qui ont été annoncés, parce qu'il y en avait quand même pas mal. Au final, j'ai quand même l'impression que tu dis que c'est un super bon produit, quoi.
Ah oui, complètement. Alors moi, c'est clair que je le recommanderais. J'ai hâte de voir la version A, donc la version pas chère, entre guillemets. Le 3, je l'ai acheté par exemple à ma sœur. C'était un cadeau d'anniversaire. Elle voulait un smartphone pas cher, mais qui prenne les meilleures photos du monde. J'ai carrément trouvé le truc. Il n'y a pas mieux que le Pixel 3A sur cette gamme de prix. Et je pense que Google va faire quelque chose de très fort avec le 4A. S'ils reprennent les technologies qu'ils ont là-dessus et qui divisent le prix par deux, ça va être ça peut être un carton. Après, je suis un poil déçu. Mais ça, c'est parce que j'ai testé un Pixel 3 et que j'ai vu ce que Google était capable de faire aux États-Unis. On se retrouve avec une version que j'ai l'impression un poil amputée côté logiciel et côté format en France. On n'a que le noir, on n'a que la version 64 Go, on n'a pas les fonctions dictaphone, on n'a pas le nouvel assistant.
Ah oui, parce qu'on l'a pas dit, mais
la sécurité.
La fonction dictaphone, c'est un dictaphone qui va retranscrire en texte, en direct, tout ce qu'on dit. Exactement. De manière à ce qu'on puisse chercher dans le texte très facilement par mots, etc. Et le nouvel assistant, c'est celui que j'attends avec impatience, qui a une partie logicielle sur le téléphone et qui fait qu'il peut reconnaître sans même accéder au réseau ce que vous dites, et qui donc est beaucoup beaucoup plus rapide. Ces éléments, et d'ailleurs il sort en même temps le 24, là, dans deux jours en France aussi.
Ah non, il y aura rien qui sortira.
Le téléphone, le Pixel 4, il arrive quand en France?
Oui, il sort en France, bien sûr. Oui, il est en précommande, c'est une sortie mondiale.
C'est le 24, oui. Mais ces éléments-là, ces améliorations logicielles, ne seront pas en français, en fait. J'imagine qu'on pourra les avoir en anglais.
L'assistant, non. On a la vieille version qui est chargée sur les smartphones français. Donc, même si vous le configurez en anglais, vous ne l'aurez pas parce que vous n'avez pas le logiciel. En revanche, c'est là où c'est encore plus frustrant pour Dictaphone et pour Safety, par exemple. Safety, c'est un ensemble de logiciels et d'applications qui vous permettent, par exemple, si vous êtes accidenté sur la route, ça peut appeler les secours tout seul, vous géolocaliser, etc. C'est pareil, c'est disponible que dans les pays anglophones. Ce qui est frustrant, c'est que toute la doc est en français. Et Dictaphone, la première fois que vous le lancez sur un Pixel 4, il va vous faire un tuto entièrement en français sur tout ce qu'il peut faire. Et ensuite, vous lancez l'enregistrement et il vous dit « disponible uniquement en anglais ». Il y a un côté un peu « bon, ok ». C'était pas prévu, quoi.
Peut-être que ça arrivera, ça c'est du logiciel, peut-être que ça arrivera.
On nous a parlé début 2020 pour nous, donc j'imagine le premier semestre.
Alors ça va, c'est pas trop dramatique.
Ça va, mais c'est quand même un lancement. Ce que Google avait fait avec le Pixel 3, c'était aussi logiciellement réduire la temporalité des sorties logicielles. Et c'est pour ça aussi qu'on nous avait donné la raison pourquoi le Pixel 2 n'était pas là. C'est parce que sur le Pixel 2, on était encore trop loin en VF sur les fonctionnalités intelligentes du Pixel, tu vois.
D'accord.
Là, je trouve qu'on retourne dans une logique un peu entre les deux, quoi. On n'a pas encore les fonctionnalités, mais on a le smartphone.
Bon, écoute, je suis sûr que certains seront contents de le prendre quand même. Sur les autres produits, est-ce qu'il y a des choses à noter ou pas vraiment? Comme je le disais, c'était pas les choses les plus incroyables qu'une société tech ait annoncé, mais si vous avez des choses à noter, c'est le moment.
Non, pas vraiment, à part le Nest Hub Max, dont tu n'as peut-être pas parlé, qui sort en France. Donc, c'est le même produit qu'aux US il y a quelques mois, qui est, je trouve, peut-être l'écran connecté le plus intéressant, parce qu'il intègre déjà une caméra de sécurité Nest à l'intérieur, il permet de faire du vidéo call, etc. Enfin, c'est vraiment un second écran vraiment malin. Le deuxième truc, c'est que les Wi-Fi, que j'aime beaucoup, les Nest Wi-Fi, ils ont changé de formule, et je la trouve beaucoup plus confuse qu'avant. Parce que l'un des deux est une sorte de à la fois relais mesh et Google Assistant intégré. Et il perd son port Ethernet. Alors moi, je suis peut-être un peu un nerd, mais j'ai une configuration où les deux Wi-Fi se parlent et sont reliés chacun à une sorte d'écosystème câblé. Parce que j'ai ma box dans un coin, ma chambre, il y a d'autres choses à l'intérieur, etc. Et ben là, si vous prenez le pack de base avec un routeur et un point d'accès, comme ils l'appellent, vous ne pouvez plus faire ça. Parce que le point d'accès n'a pas de câble Ethernet de sortie. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est acheter deux routeurs, mais du coup, c'est beaucoup plus cher.
Ouais, je comprends. Mais oui, mais disons que c'est le but quand même de ces produits et de diffuser le Wi-Fi. Et puis, là où ça me frustre un peu plus, c'est cette histoire de pas de Wi-Fi 6, qui est quand même en train d'arriver partout. C'est un petit peu dommage.
C'est dommage, mais Pixel 4 ne l'est pas non plus, tu vois. Je pense qu'ils ont fait l'impasse.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cette année, quoi.
Ouais, ça sera l'année prochaine. Mais le Pixel, à la limite, tu peux te dire, on en change tous les ans. Ce genre de routeur, tu les gardes plusieurs années.
Exactement.
Quand même.
Exactement. Je te rejoins tout à fait. Le Pixel, en fait, là j'ai un iPhone 11 Pro depuis sa sortie. Je ne l'ai encore jamais utilisé sur un réseau Wi-Fi 6. Alors que si j'achetais un routeur Wi-Fi 6, je compte l'utiliser 10 ans, en fait.
C'est ça, exactement.
C'est ça la différence.
Bon, et puis à noter quand même qu'ils ont beaucoup appuyé sur leur vision du ambient computing, de l'informatique ambiante en fait, qui est tout autour de nous avec tous ces capteurs, tous ces assistants intelligents, même les téléphones, qui est plus une vision effectivement de la manière dont ils envisagent l'informatique et les services aux personnes par l'informatique qui est intéressante, mais qui aujourd'hui est pas foncièrement différente de ce qu'on connaît par ailleurs, quoi, de la part de ces sociétés qui nous proposent tout un écosystème. En l'occurrence, c'est Google, Apple et Amazon et personne d'autre dans ce qui a vraiment de la force. Il y a Facebook et Microsoft qui essayent de taper à la porte, mais oui, on a ces trois-là. Une dernière chose à dire, et puis on avance. Je vous laisse l'opportunité. Non ?
Bon, c'est bon.
Ok.
On se tait à jamais.
D'accord, ok, très bien. Et bien dans ce cas, le silence pour toujours, ou en tout cas pour quelques minutes, le temps que je dise deux choses. D'une part, un grand merci aux auditeurs qui soutiennent l'émission. Vous le savez, cette émission est financée en petite partie par la pub, mais en grande partie et en majorité par les gens qui soutiennent l'émission financièrement. Et vous pouvez le faire très facilement à patreon.com/rdvtech. Si vous appréciez l'émission, en fait, si vous l'écoutez depuis quelques mois et que vous dites bah vraiment c'est un travail sympa, ça me fait passer un bon moment, ça m'informe, ça me fait gagner du temps, je peux faire ça en faisant autre chose. Et quand l'émission arrive, bah, vous êtes plutôt content, vous dites, bah, je vais passer un bon moment dans les transports. Bah, dites-vous peut-être que ça vaut le coup de passer le pas et de devenir Patreon, patriote plutôt, du Rendez-vous Tech. Vous pouvez le faire très facilement sur patreon.com/rdvtech et il y a des petites récompenses bien sympathiques auxquelles vous pouvez avoir accès en plus. Vous pouvez le faire depuis votre téléphone mobile, le lien est dans les notes de l'émission. Donc n'hésitez pas, c'est très simple, vous avez entièrement le contrôle sur tout, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc tentez le coup, moi je vous le recommande et je pense que vous serez content au-delà de... des récompenses qui sont évidemment sympathiques, vous serez content de devenir soutien actif de l'émission et fier de soutenir l'émission. En tout cas, c'est à ça que je travaille. Et d'un autre côté, comme je le disais tout à l'heure, le prochain épisode sera un épisode un petit peu spécial puisque c'est l'enregistrement en live qu'on a fait au Paris Podcast Festival où on essayait de définir ce qu'était un podcast d'un point de vue technique, d'un point de vue production, d'un point de vue éditorial. Je recevais trois personnes, Siegfried Touvenot, le capitaine de l'apéro du capitaine, Corentin Lamy qui travaille au Monde et qui est notamment sur ZQSD, le podcast, et Anouk Perry, qui est une productrice jeune et indépendante de podcasts assez intéressants sur des sujets particuliers que vous pourrez découvrir. Et on a discuté de tout ça pendant un petit trois quarts d'heure et on a répondu à quelques questions après. C'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais j'espère que vous l'apprécierez aussi. Ça sera dans le flux la semaine prochaine. Et alors, la semaine d'après, je ne sais pas comment ça se passera parce que moi, je suis en voyage à Los Angeles, à la BlizzCon. Et d'ailleurs, je vais faire des contenus exclusifs pour le rendez-vous jeu. Donc, si vous voulez soutenir le rendez-vous jeu, c'est possible aussi. Si vous êtes intéressé par cette émission, je pense que vous êtes déjà au courant. Mais voilà, c'est possible aussi. Et donc, je vais être en vadrouille. Donc, on verra comment ça se passe pour l'épisode d'après. Mais au pire, ça sera le mercredi plutôt que le mardi qu'il sera disponible. Voilà pour les petites news. On continue avec les news et rumeurs, avec un début qui fait écho à ce qu'on disait la semaine dernière avec l'arrivée des voitures autonomes, d'un service commercial de voitures autonomes en Arizona. Et ben là, on a toujours du côté de chez Google. C'est bien Google, hein, Wing, si je ne m'abuse.
Non, pas Wing.
C'est les voitures autonomes, c'est Google, mais Wing, je croyais que c'était Google. Peut-être que je me trompe.
C'est Waymo, Google.
Oui, Waymo, c'est les voitures autonomes, mais Wing, c'est les drones.
Ah oui, tout à fait, oui. Pardon, excuse-moi.
Et c'est Google, Wing, ou pas? Je crois que c'est...
Je pense que c'est eux, oui.
On va mettre un petit.
Oui, tout à fait, oui.
C'est le cas, c'est ok. Vrai. Très bien. Eh ben, Wing, donc, ils sont en train de lancer un service commercial de livraison par drone pour Federal Express, enfin FedEx, Walgreens, etc. Donc des différentes marques spécifiques dans une ville spécifique. Donc on n'est pas encore à une utilisation importante et grande. Grande envergure de la livraison par drone, mais dans cette ville-là, en Virginie, ça va vraiment être une utilisation commerciale. Donc, il y a les petits drones qui vont voler en stationnaire pour faire descendre un petit paquet avec un crochet qui va vous l'amener. Et puis, ils vont retourner à leur petit entrepôt pour livrer d'autres personnes. Ça arrive, même si on en parle depuis longtemps, ben, ça arrive. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des choses à ajouter sur ces sujets. On va continuer avec quelques infos du côté de Apple, dont les lunettes de réalité augmentée devraient, selon certaines sources bien informées, arriver en 2020. Donc vraiment, là, on arrive à cette catégorie de produits qui devrait être, on va dire, peut-être ravigorée par Apple, selon les sources de Bloomberg qui sont bien informées. Alors, ça pourrait être décalé, mais pour le moment, c'est prévu pour 2020. Et on a aussi les Mac sous processeur ARM, donc avec des processeurs fabriqués par Apple qui arrivent. On a aussi, des AirPods Pro qui devraient être lancés en octobre, donc avec réduction de bruit active, et le fameux MacBook Pro 16 pouces qui arrive aussi en octobre, et Adobe qui est en train de travailler sur une version complète d'Illustrator et de Photoshop pour iPad qui devrait être lancée en 2020. C'est marrant parce que moi, j'ai justement fait des tests pour les émissions spéciales que je vais faire pour le rendez-vous jeu de logiciels logiciels de montage sur iPhone et iPad qui commencent à être vraiment, vraiment bien foutus. Et du coup, je risque de pouvoir faire mon enregistrement et mon montage sur iPhone directement pour publier des émissions, des éditos spéciaux sur Patreon par ce biais. Donc vraiment, ces appareils continuent à faire de plus en plus. Mais la grosse info de tout ce que je viens de dire, c'est bien sûr la potentielle arrivée des lunettes de réalité augmentée. Je ne vais pas vous demander si vous pensez que ça va avoir du succès, parce que ça, on ne sait pas vraiment ce qu'ils peuvent proposer. Mais peut-être, Gaël, est-ce que tu crois que Apple va enfin lancer ses lunettes de réalité augmentée en 2020, ou est-ce que c'est trop tôt encore ?
J'ai tendance à penser que c'est trop tôt. Ils risquent d'en sortir, mais je pense pas que ça aura un succès. Je pense qu'il y a encore trop de problématiques. Après, peut-être qu'ils vont nous surprendre, hein, mais je pense qu'il y a encore trop de problématiques technologique sur les lunettes de réalité augmentée. On l'a vu hein, quand Google l'avait fait sur ses précédentes, les problèmes de santé que ça pouvait créer, les problèmes sociaux aussi que ça pouvait créer. Tu vas dans un bar avec des lunettes de réalité augmentée, on te pose des questions. Donc,
mais ça, c'était quand même il y a longtemps, les Google Glass. C'était quoi, il y a 10 ans presque. Tu crois qu'on est toujours dans ces problématiques ?
Écoute, à voir s'il y a des surprises, mais j'ai du mal à penser que si Google les ait toujours pas ressortis alors qu'ils avaient de l'avance, voilà. Mais peut-être une forte surprise de la part d'Apple.
Alors effectivement, ce qui est important dans des lunettes de ce type, a priori, hein, quand on pense aux différentes utilisations, c'est qu'il y ait une caméra. Peut-être que Apple peut résoudre le problème du fait qu'on avait l'air un petit peu bête avec ces appareils en utilisant des lunettes moins moches que les Google Glass, enfin que ce que ça donnait au final l'appareil avec les Google Glass. Julien, toi, est-ce que tu crois que ça pourrait sortir en 2020 ? Est-ce que tu y crois ou...
Non, je ne crois pas une seconde. Pour avoir testé toutes les technologies de réalité augmentée les plus avancées, et notamment le dernier HoloLens de Microsoft, qui est bluffant. Hein. C'est bluffant, mais dans le cadre très particulier de l'entreprise, du service au B2B, aux industries, etc. En fait, à moins qu'il y ait eu une technologie breakthrough, c'est-à-dire un truc qui nous fait passer, qui nous fait sauter d'un pan à un autre de la tech, personne n'aurait vu, on n'est pas encore au grand public en fait là-dessus. Ça fonctionne pas assez bien, c'est pas assez beau, c'est pas assez propre, et surtout pour Apple. Faut se souvenir qu'Apple quand même compte vendre des produits quoi. C'est pas quelqu'un qui fait des écrans enroulables quoi.
Enfin, ouais. Et c'est pas des trucs pour les. Non, mais t'as raison. C'est des trucs qui veulent justement des technologies très grand public. Mais est-ce que tu penses pas justement, enfin, à la limite, je pose la question en l'air. Apple a l'habitude de prendre des technologies qui existent depuis un certain nombre d'années et justement d'en tirer une utilisation qui est plus, comment dire, convaincante que ce qu'on avait vu jusqu'alors. Et
ah oui,
moi, je pourrais. Du coup, je vais prendre le contre-pied de ce que vous dites. Je me dis, je pourrais imaginer qu'ils lancent des lunettes de réalité augmentée qui ne vont pas inonder le marché, mais qui seraient en accessoire du téléphone, de la même manière que les montres Apple, il y a 5 ans, étaient arrivées et étaient bon, un petit marché supplémentaire, un accessoire vraiment, qui était une nouvelle catégorie de produits, qui a fini par se trouver et qui a une place importante aujourd'hui, même si ce n'est pas la place principale. Pourquoi pas ?
En fait, ils auraient le seul truc que je vois et qui pourrait marchouiller dans un premier temps, ça serait vraiment de déporter effectivement la puissance sur l'iPhone, qui en a la capacité, un gros CPU, etc., et que la lunette soit simplement une sorte d'écran de visualisation.
C'est ça.
Comme ça, tu enlèves tout le côté besoin d'une grosse batterie, besoin d'un processeur qui fasse tourner tout ça, etc. Et tu déportes en fait l'informatique dans le smartphone.
Alors c'est
là,
ça.
Pourquoi pas ? Mais même sur les technologies de visualisation, tu sais, sur des écrans, des surfaces transparentes, on est encore loin de ce que j'appellerais un Apple Seal of Approval, quoi, tu vois, une sorte de...
un truc qui soit suffisamment bien fini pour que... ouais.
C'est
bon,
ça,
à voir alors.
Hein. Qu'il y a des pixels qui flottent dans l'espace, quoi. Ça peut être très très bien et très pratique, comme je l'ai dit, dans l'industrie. J'avais testé une démo HoloLens qui était incroyable sur le montage d'un réacteur d'avion, mais dans l'industrie, quoi. Donc, on est habitué à avoir des interfaces plus austères, des trucs très, simples, enfin, disons, mécaniques d'usage, et pas du tout des choses grand public. Et ça, pour l'instant, je n'ai pas vu l'entreprise qui a fait le pas vers le grand public là-dessus.
Bon, bah peut-être 2020, peut-être un peu plus tard, alors peut-être que ça sera décalé, mais on verra peut-être que Apple fera une utilisation très pointue, très spécifique de ces choses-là. Et bon, et c'est marrant de voir que les montres avaient un public très restreint au départ, et au fur et à mesure, ils l'étendent, donc peut-être qu'ils reprendront ce type de philosophie pour les lunettes
après,
de réalité.
Après, j'y crois, hein. Dans l'absolu, j'y crois.
Sur le long terme, ouais.
Sur le long terme, bien sûr. Ils ont tout fait pour. Ils ont sorti AirKit. Quand on voit certaines applications, on se dit, j'ai envie de les avoir dans des lunettes, en fait.
Ouais. C'est ils ont bien préparé la chose, quoi.
Ils ont le logiciel, quoi. Mais maintenant, donc j'y crois vraiment à long terme. 2020, je trouve ça un peu en avance de phase.
D'accord. Ouais. Alors, parlons un petit peu de réseaux sociaux et de ce qu'on peut faire ou de ce qu'ils sont en train de faire pour essayer de corriger les problèmes que posent les réseaux sociaux dans la société. Alors, avant ça, quand même, mentionner cette histoire de Apple qui enverrait les informations de navigation à la Chine, qui a fait les gros titres ici et là. Je voudrais corriger ou en tout cas préciser ce qui se passe parce que certains d'entre vous se sont peut-être inquiétés. En fait, il y a un partenariat qui existe entre Apple et Google pour envoyer les données de navigation en format chiffré, en hash, à Google qui va ensuite nous dire si, selon leurs informations, ces sites comportent des risques de hack ou pas. Et on a vu on a constaté il y a quelques jours, quelques semaines de ça, qu'ils avaient ajouté il y a un moment, il y a un peu plus longtemps, à ce service qu'ils utilisent de Google, un service similaire qu'ils utilisent chez Tencent, donc société chinoise. Et donc, à partir de là, de nombreux articles sont arrivés disant que Google envoyait toutes nos informations de navigation en Chine, ce qui, dans le climat actuel, dont on reparlera un petit peu plus tard, est évidemment préoccupant. Alors, concrètement, ce qui se passe, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, d'après Apple. Après, on peut leur faire confiance ou pas. Je pense pas qu'ils aient vraiment intérêt à mentir sur ce point précis, en tout cas. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent Tencent pour le même service, mais en Chine. C'est-à-dire que quand on est en Chine, quand on est un utilisateur chinois, on va utiliser Tencent pour savoir si des sites sont risqués ou pas, et pas Google, puisque Google est évidemment beaucoup moins, voire pas du tout présent en Chine. Donc voilà, c'est pour utiliser sur le territoire chinois, et quand on n'est pas en Chine, on n'envoie pas nos données de navigation à Tencent. Moi, c'est une histoire qui me paraît cohérente. On a suffisamment de choses à reprocher à de nombreuses sociétés tech et autres en ce moment pour ne pas en ajouter en plus des factices. Voilà, je voulais juste le préciser rapidement. À côté de ça, on va revenir à la Chine tout à l'heure, mais à côté de ça, Twitter et Facebook ont annoncé des choses assez intéressantes, je trouve, pour la gestion des contenus, on va dire, politiques / controversés. Pour Twitter, ils ont pris une décision qui me paraît assez judicieuse, c'est que dans le cadre des comptes de personnalités politiques importantes, ils ont décidé que quand ces personnalités émettraient des messages, controversés, ou faux, ou qui vont à l'encontre des règles d'utilisation de Twitter, et ben ils n'allaient pas supprimer ces tweets, comme ils l'ont déjà dit depuis longtemps. Mais par contre, ils vont empêcher les retweets, les likes, les réponses ou les partages, d'une manière générale, de ces tweets. Et ce que ça donne, c'est que les tweets des personnalités politiques importantes qui ont une valeur d'information vont quand même être présents sur leur compte et on va les voir si on est abonné à ces personnes. Mais par contre, on ne pourra pas les diffuser plus loin que le flux de la personne dont elle est originaire, enfin dont le tweet est originaire. Donc ça me paraît être une solution qui n'est pas bête pour trouver l'équilibre entre le besoin d'information et le fait qu'ils ne peuvent pas censurer, eux, des personnalités politiques, surtout des présidents, enfin des personnalités qui représentent un pays. Bah, c'est compliqué de dire qu'ils ne peuvent pas être sur Twitter. Ça serait possible techniquement, mais je pense que ça poserait des problèmes. Et le fait de les laisser diffuser des informations informations trop controversées. À noter quand même que le premier d'entre eux, Donald Trump, n'a pas encore eu un seul de ses tweets qui est tombé sous le coup de cette règle. Donc la règle existe, mais elle n'est pas encore appliquée. Facebook a par ailleurs décidé de mettre en place toute une série de règles pour plus de transparence dans les informations sur les élections et dans les publicités sur les élections. Alors, on en parlait un petit peu la semaine dernière, mais en gros, ils vont mettre en avant de manière beaucoup plus importante les informations fact-checkées, c'est-à-dire que quand un lien ou une information sera déterminée comme fausse, eh ben, elle sera vraiment cachée. Il faudra cliquer pour y avoir accès. Il y aura les noms des sociétés ou surtout des organisations gouvernementales qui seront derrière une campagne publicitaires qui seront mises en avant de manière beaucoup plus significative, et ils ont banni plusieurs réseaux de pages originaires de Russie et d'Iran qui diffusaient des fausses informations. Donc ils semblent être plus actifs sur ces sujets. La solution ultime que proposaient les invités la semaine dernière, c'était simplement d'interdire les publicités politiques sur le réseau, ce qui serait effectivement une solution, mais qui n'est pas du tout dans l'ADN américain, qui serait beaucoup plus compréhensible ici en France, mais qui n'est pas du tout dans l'ADN américain. À vrai dire, en France, on n'a pas le droit de le faire, effectivement, au moment d'une élection, en tout cas. Donc, et toujours sur ce sujet des élections, deux infos supplémentaires, et puis je vais vous laisser la parole pour que vous me disiez ce que vous pensez de ces nouvelles règles de Twitter et peut-être de Facebook. À Hong Kong, quand on compare Hong Kong et le Cachemire avec les démonstrations, les manifestations qui s'organisent sur Internet, eh ben on se rend compte que faire de la propagande et inonder de propagande les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus efficace quand on veut faire taire des manifestations que d'essayer de censurer les réseaux. Et dans ce contexte, une information qu'on a sur les campagnes présidentielles aux États-Unis, la campagne républicaine de Trump inonde le marché et les réseaux d'information et de publicité, alors que la campagne démocrate est beaucoup moins active sur les réseaux sociaux, même s'ils sont actifs aujourd'hui. Donc je vous laisse tirer vos propres conclusions, mais effectivement, la campagne de Trump a tiré les leçons de sa victoire de 2016 2016, et inonde vraiment les réseaux sociaux. Donc, est-ce que les mesures de Twitter ou de Facebook suffiront ? Ça, je ne saurais pas trop vous le dire. Voilà, j'ai beaucoup parlé pour détailler tout ça. Gaël, toi qui es un petit peu dans le domaine de l'éducation, on parle d'éducation aux enfants, hein, mais peut-être que nous sommes tous de grands enfants au final. Est-ce que tu penses que ces mesures de Twitter, voire de Facebook, sont judicieuses ? Moi, ça ne me paraît pas si bête, mais...
Je trouve que ça va dans le bon sens. Oui, tout à fait. Effectivement, le fait que Twitter dise on ne doit pas censurer et on doit laisser, parce que finalement c'est presque de l'histoire de laisser les tweets ravageurs de certains présidents, on ne citera pas, il faut les laisser parce que les gens c'est presque un droit à l'information, hein, finalement, de savoir que tel ou tel président ou telle grande personnalité politique publique a sorti a violé une règle effectivement, on a sorti une énormité. Je pense que c'est judicieux. Je pense que c'est judicieux de dire qu'on peut pas le retweeter, liker, reply, share, tout ce que tu veux. Après, évidemment, ça changera pas le fait que les gens pourront en reparler et pourront faire des hashtags sur le sujet ou prendre la photo du tweet et le repartager. Donc
évidemment.
Mais ça montre en tout cas une volonté de la part de Twitter de dire officiellement on montre qu'on n'est pas d'accord, on montre que c'est une violation des règles officiellement, et après les gens peuvent quand même réagir dessus, mais je trouve que c'est une bonne solution. Après, encore une fois, on est encore des bébés, hein, sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est le jeu du chat et de la souris. Pareil pour Facebook, ils mettent des choses en place, c'est bien, ça va dans le bon sens. On n'a pas fini. Les règles, elles vont se mettre petit à petit en place, d'où leur comité indépendant aussi, qui servira aussi dans tout ce genre de sujets.
Tout à fait.
Donc voilà, après j'inviterai juste sur ton dernier sujet par rapport aux campagnes politiques, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais vraiment je vous invite à regarder le documentaire qui a eu lieu sur Netflix, sur Cambridge Analytica, The Great Hack. Qui parle justement de toutes ces techniques, ces stratégies, justement, comme tu le disais, qui incitent finalement à laisser faire sur les réseaux sociaux, parfois peut être plus dévastateur que d'empêcher. Et c'est des techniques vraiment politiques, hein, et c'est extrêmement bien expliqué dans ce documentaire.
Ouais, c'est vraiment cette idée que si on en dit suffisamment, d'ailleurs Facebook a parlé de ce problème spécifique, entre autres, le fait que les publicités qui encouragent à ne pas aller voter, en disant par exemple « Ah bah ça sert à rien, c'est tous des pourris », etc., ils vont carrément les interdire aussi. Donc, et c'est vrai que c'est cette technique, quoi, c'est d'inonder les réseaux avec tellement de confusion que les gens se disent « Bon bah ça sert à rien ». Au final, c'est un petit peu ça, quoi, mais bon. Ouais, Julien, un avis sur la chose ? Vous traitez quand même pas mal de sujets sociétaux sur Numérama.
Bah, il est absolument pas en contradiction avec le vôtre, donc je vais pas m'étendre.
Mais on est tous d'accord.
Je trouve que c'est intelligent et que la parole politique et publique doit être exposée, même quand elle est grave et même quand c'est de la fake news. En fait, c'est là où je vois la différence entre un média ou quelqu'un qui essaie de, enfin une personnalité ou quelqu'un qu'on a donné cette tâche dans la société, c'est de relayer l'information, de la vérifier, etc. Et une personne qui fait campagne. En réalité, quand Zuckerberg dit quelque chose comme est-ce que c'est à moi de censurer le mensonge sur Facebook, est-ce que c'est à moi de décider, s'il commençait, en réalité, il ferait peut-être une censure de toutes les campagnes politiques, parce que même les campagnes politiques avec des promesses, enfin les promesses politiques, on voit très bien dans les articles qui sortent sur les bilans des quinquennats ou les bilans des présidents d'autres pays que la France, les campagnes, les promesses politiques ne sont que très peu tenues en réalité.
Et donc, en
ce
plus,
sont des fake news, tu vois.
À la limite, quand elles sont pas tenues après coup, on peut se dire bon ben on pouvait pas savoir avant. Mais souvent, on sait que les experts nous disent qu'elles sont pas tenables tout court. Donc
oui,
et on sait déjà avant. Donc ouais.
Mais elles resteront là parce que c'est ce qui fait aussi la politique. Enfin, on est souvent élu sur des promesses et voilà, ça on va pas changer ça comme ça. Et je pense que c'est même
et
pas.
Et c'est pas le rôle de Facebook de changer ça, oui.
Et ça évite d'alimenter le complotisme en disant, vous voyez, on nous censure, etc. Ouais. On nous laisse pas la parole, blabla.
Ah oui, complètement.
Ce qu'on peut entendre.
Moi, je dirais que la semaine dernière, on parlait de ça et je crois que c'était Jeff et Marion qui me disaient « Mais au final, le mieux, ça serait d'interdire toutes les campagnes politiques pendant les élections au moins. » J'étais un petit peu hésitant à ce moment-là. Je sais que c'est ce qu'on fait en France, mais je crois que je me suis rallié à leur idée et la manière dont on le fait chez nous n'est pas forcément mauvaise. Le fait d'interdire simplement les campagnes politiques, enfin, pas les campagnes, évidemment, les publicités politiques au moment des campagnes, je crois que c'est une bonne méthode parce que c'est tellement incontrôlable que ça peut influencer au déficit de la société. Donc, mais bon, le jour où les Américains laisseront le gouvernement faire ce qu'il faut pour le bien de leur société, je crois qu'on aura beaucoup moins de problèmes à gérer. Justement, un pays qui fait peut-être un petit peu trop pour le bien de son peuple, on va reparler de Chine, avec les... Alors, on en a déjà parlé un petit peu, j'ai l'impression que j'en parle toutes les semaines maintenant, entre le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. La Chine je vais résumer rapidement pour ceux qui n'avaient pas écouté l'épisode précédent. En gros, on se rend compte que la Chine a, de par l'implication des différentes sociétés sur son marché, a réussi à imposer certaines visions chinoises à des sociétés qui ne sont pas chinoises. On a l'habitude d'une sorte d'impérialisme culturel qui fait que par la culture qui est envoyée dans d'autres pays, eh ben on va influencer ces pays-là. Là, c'est l'étape 2 ou 3, c'est que la Chine dit à différentes sociétés, si vous voulez avoir accès à notre marché, eh bien, vous devez faire les choses de telle ou telle manière. Et donc, les sociétés, même les sociétés étrangères, se mettent à modifier leur comportement. C'est Benedict Evans qui a très bien dit la chose. Marion m'avait envoyé sa newsletter à ce propos. il a dit la Chine utilise comme arme son marché. China is weaponizing its market. Et c'est tout à fait juste. Et bon, voilà pour le résumé. Ça a mené Apple à retirer des applications de son store. Ça a mené Blizzard, la société de jeux vidéo, à censurer un joueur. Et il y a plusieurs autres histoires comme ça. Les grands studios américains de cinéma modifient un petit peu leur scénario pour être sûr qu'ils puissent sortir en Chine, etc., etc. Ça a continué à faire beaucoup de bruit. Là, le développement qui est intéressant, je vais en citer deux. Il y a des politiciens américains, des élus au Parlement américain qui ont signé une lettre commune à Apple et une autre à Activision Blizzard pour leur dire « ce que vous faites n'est pas acceptable, vous devez défendre les valeurs américaines et là, vous les fourvoyez ». C'est notable parce que c'est la seule fois que j'ai vu en plusieurs années de décennies de suivi de la politique américaine, en tout cas ces dernières années, les politiciens des deux bords travaillaient ensemble pour dire une chose commune. Et ça n'arrive quasiment jamais. Donc, c'est montrer à quel point la Chine et les sentiments envers la Chine sont importants en ce moment. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est que TikTok, dont on avait dit qu'ils avaient supprimé la publicité politique et les annonces politiques sur leur réseau, il y a quelques semaines, on se disait « Ah bah voilà, ils censurent tout le monde, c'est plus simple pour éviter de déplaire à la Chine », et effectivement TikTok est une société chinoise, enfin un produit chinois, donc c'est pas surprenant, et ben quand même, ils sont en train d'essayer d'arranger un petit peu les choses en travaillant avec un cabinet juridique pour savoir comment il faut contrôler le contenu aux États-Unis et dans l'Occident d'une manière qui est différente de la Chine. Donc, ils ne veulent pas quand même avoir exactement les mêmes règles à l'intérieur du pays et à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Et en plus de ça, ils sont en train d'envahir le monde entier, on le sait, d'avoir des programmes d'éducation en Inde, des choses de ce type-là. Donc, en gros, ils travaillent leur image, on va dire, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Bon, voilà, je ne sais pas s'il y a grand-chose à commenter en plus qu'on n'a pas déjà dit les semaines précédentes, mais allez-y, c'est votre opportunité. Non ? Personne ? Très bien. Bah, écoutez,
rien qui aura de la valeur ajoutée.
D'accord.
Oui, de même.
De même, très bien. Je conclus en disant que le gouvernement indien est visiblement en train d'essayer de tenter les fabricants de tech avec des taxes réduites et des accélérations administratives pour qu'ils viennent dans le pays. Suite au problème avec la Chine, c'est pas forcément surprenant que l'Inde se mette sur le pied de guerre pour attirer les constructeurs. On a vu que certains allaient au Vietnam. Bah, l'Inde a évidemment une main-d'œuvre énorme qui pourrait bénéficier de ce type d'activité. Et la dernière news que je voulais traiter, c'est l'information...
Sur ça, visiblement, certains iPhone XR, enfin 10R, sont déjà produits en Inde et sortent avec la mention « Made in India ».
Oui. Tout à fait. Ils ont déjà une certaine infrastructure en Inde.
Et c'est récent, c'est récent, les iPhone 10R.
Oui, d'accord. Les iPhone 10R, je ne savais pas spécifiquement, mais je sais qu'ils fabriquent un peu. Notamment parce qu'il y a quelques années de ça, l'Inde avait spécifié que pour être présent en Inde, certains produits devaient être fabriqués au moins en partie en Inde. Donc je sais
qu'ils ont déjà Oui, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est Foxconn, le chinois, qui a déporté ses usines en Inde pour travailler pour Apple.
Ils ne sont pas taïwanais, Foxconn ?
Pardon, oui, il est taïwanais. Oui, je vais créer un incident diplomatique. J'espère que personne...
Personne n'écoute, t'inquiète pas, voilà. Cette émission n'est écoutée par personne. Il n'y a pas de souci. Et puis, la dernière info, on avait parlé de cette loi en Angleterre. Alors, ils sont déjà suffisamment occupés par le Brexit, mais ils ont annulé cette loi selon laquelle il fallait une vérification d'âge pour accéder à des contenus pornographiques sur le web. On avait parlé de tous les problèmes que ça pourrait poser, des problèmes techniques. Et ben finalement, après le vote en grande pompe et la défense des enfants qui est toujours mise en avant pour ce genre de loi, ils ont fini par discrètement supprimer la loi, et donc ça ne sera pas implémenté. Je pense que ça fera pas de mal à grand monde qu'elle n'arrive pas finalement. Ouais, je pense qu'on était là aussi tous d'accord. Merci de m'avoir écouté déblatérer toutes mes informations pendant de nombreuses minutes. Je parle évidemment aux auditeurs et surtout aux co-animateurs. On va se quitter là, mais pas avant que vous ayez pu nous dire où on peut vous retrouver sur Internet, à commencer par Julien peut-être, Numérama oui. notamment.
Et bien évidemment numérama.com tous les jours, mais j'aimerais peut-être faire un petit coup de publicité pour notre chaîne YouTube qu'on est en train de lancer. Donc pas mal de vidéos avec de très très beaux plans, on espère, du moins notre vidéaste Louise Audry passe des heures et des heures à travailler comment présenter la tech sous un angle qui serait joli. Donc la chaîne YouTube, c'est simple, elle s'appelle Numérama. Et voilà, si vous aimez notre travail, abonnez-vous, on sort des reportages, des enquêtes, des prises en main, des tests, des comparatifs. Enfin bref, c'est une chaîne tech assez globale et qu'on espère faire rayonner d'ici l'année prochaine.
Super, donc Numérama sur YouTube.
Tout à fait.
Gaël, on s'est croisé il y a quelques jours à peine. Tu me parlais de la manière dont ça se passe pour Coud. Je suis heureux de voir que ça se passe plutôt pas mal. Est-ce que tu veux nous parler de ça ou d'autre chose? Je ne sais pas.
Écoute, oui, Coud, on est bah là, c'est vraiment notre grande rentrée avec cette rentrée scolaire. Donc, on se déploie dans les écoles. Donc, ça se passe plutôt très bien. Et comme je l'avais dit la dernière fois, par contre, du coup, on cherche à recruter. Donc, je le redis, on cherche à recruter des game designers, des graphistes qui voudraient faire des jeux positifs dans l'éducation au numérique. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez sur le site coud.fr, sur notre Facebook, sur notre Twitter coud_fr ou moi directement @gmgirardo. Voilà, vous pouvez, n'hésitez pas. On fait de très belles choses avec Coud. En tout cas, on essaye d'éduquer nos jeunes générations au numérique aussi bien que le rendez-vous tech avec les adultes.
Voilà. Il y a quelqu'un. Oui, effectivement. Donc Coud, COOD.fr. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, oui, c'est de l'éducation au numérique spécifiquement pour les enfants et Dieu sait qu'on en a besoin. Il y a quelqu'un qui me demandait au Paris Podcast Festival hier ou avant-hier, quel serait ton souhait par rapport aux politiques ou quelque chose comme ça. Est-ce que des personnalités politiques t'ont déjà demandé à parler avec toi sur les sujets tech? Et moi, ce que je disais, alors c'est déjà arrivé, figurez-vous, avec notamment Axel Le Maire, mais il y a quelques années. Mais moi, ce que je voudrais, en fait, c'est pas vraiment qu'ils viennent me parler, mais qu'ils écoutent. Ça serait tellement plus simple s'ils écoutaient le rendez-vous tech et s'ils étaient au fait des subtilités de la vie numérique, et ils comprendraient beaucoup mieux ce qui se passe dans le monde, et donc simplement qu'ils écoutent. J'ai pas besoin qu'ils viennent me parler, mais simplement qu'ils écoutent. Et peut-être qu'ils contribuent, on va dire, à hauteur de $2 par épisode, par exemple. C'est pas énorme, ils peuvent le faire passer en frais professionnels, en plus, je suis sûr. Mais si vous aussi, vous appréciez ce qu'on fait avec cette émission, eh ben peut-être venez contribuer sur le Patreon, patreon.com/rdvtech. Comme je le disais tout à l'heure, le lien est dans les notes de l'émission, c'est super facile, ça prend 2 minutes. Et non seulement c'est une énorme aide pour nous, c'est comme ça vraiment que l'émission est financée, l'essentiel de l'émission, mais en plus ça peut vous amener une certaine fierté et puis le plaisir de soutenir financièrement un produit que vous appréciez, qui vous apporte quelque chose, qui vous apprend les choses importantes sur la tech et qui les résume et les analyse. Donc patreon.com/rdvtech. Et on sera donc, moi je serai en vadrouille la semaine prochaine, donc épisode spécial comme je le disais, et puis si vous voulez écouter ce qui se passe du côté de la BlizzCon avec des choses un petit peu controversées, vous pouvez vous abonner au rendez-vous jeu tout simplement, si vous n'êtes pas déjà abonné au podcast, parce qu'on fera le deuxième jour à la fin un résumé complet de tout ce qui s'est passé, avec en plus pour les patriotes du rendez-vous jeu, un petit truc supplémentaire le jour précédent. Peut-être même plus, on verra. On vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. On vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et puis celle d'après et puis toutes les semaines pour le rendez-vous tech. Ciao, ciao. Tu voulais ajouter quelque chose, Julien ?
Ah non, je voulais juste dire bye.
Ok, bye bye.
Je l'ai pas dit finalement.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.